Environ 30% de la population souffre d'aviophobie, de la peur de l'avion si vous préférez. 14% ne prennent d'ailleurs jamais l'avion et le reste souffre l'angoisse, l'appréhension, les sueurs froides avant, pendant et après le vol. La faute au crash, hyper médiatisé, on compte un accident sur 18 millions de vols. La faute aussi au stress ambiant et aux personnalités hypersensibles et anxieuses dès qu'elles ne peuvent pas contrôler la situation. Mais on peut dompter sa peur de l'avion et c'est ce qui va nous occuper dans cette seconde demi-heure, Lydia Gabor.
Mais oui, je me suis glissée finalement dans l'un des stages que propose le CTPA, le Centre de traitement de la peur de l'avion à l'aéroport de la Blecherette à Lausanne, pour comprendre comment on pouvait guérir de cette peur de l'avion. Et je vous avertis tout de suite, le gros du boulot se fait après le stage, avec soi-même tous les jours. Mais on reçoit dans ce stage quand même des outils très précieux. Mais tout d'abord, que ressentent les gens qui ont peur en avion? Témoignage.
De plusieurs manières, surtout les pensées négatives, mais aussi physiquement, je peux commencer à trembler s'il y a des turbulences. Ça m'arrive de commencer à trembler, avoir des palpitations, les mains qui se crispent, que j'arrive plus à ouvrir. Enfin, vraiment, tout le corps qui se crispe.
Et les pensées, qu'est-ce que les racontent vos pensées?
La peur des turbulences, la peur du crash, la peur de pas avoir le contrôle, de me dire oulala, je suis dans un endroit enfermé. Ce genre de pensées.
Vous prenez quand même l'avion?
Je le prends parce que c'est nécessaire, mais si je peux l'éviter, je l'éviterai volontiers, oui.
Madame, qu'est-ce qui vous a amené à ce cours?
Je cherche un peu
le plaisir
de voyager, parce que jusqu'à présent, c'est comme mes collègues ils disent, c'est un cauchemar. Chaque fois que j'ai un voyage qui est programmé, je commence à paniquer déjà une ou deux semaines avant.
Et qu'est-ce qui est le cauchemar? C'est d'entrer dans le cockpit, c'est avant, c'est attendre,
c'est... Alors, c'est de rentrer dans le cockpit. J'ai peur de... J'ai pas assez d'air à respirer. J'ai peur d'être enfermée dans un local où c'est très petit, en fait. Une fois qu'il démarre, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste le moment que je suis dans l'avion et puis qu'il n'y a rien qui se passe. J'ai peur de rester longtemps enfermée, quoi.
Monsieur, qu'est-ce qui vous amène à ce cours?
Eh bien, c'est simplement pouvoir reprendre l'avion comme je prends n'importe quel autre moyen de transport, puisqu'il n'y a vraiment que l'avion qui m'amène de l'appréhension.
Et comment vous avez réalisé que vous aviez peur de l'avion?
Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de le prendre. En fait, je suis plus dans une situation d'évitement. Du coup, ça m'empêche de faire des projets de vacances, ce qui m'ennuie pour moi et pour ma famille, quoi.
Des manifestations de peur assez diverses, finalement. Mm-hmm. On comprend que ce soit très éprouvant de prendre l'avion pour ces personnes.
Et vous savez, déjà participer à ce stage est pour beaucoup une victoire, car ça veut dire se confronter à cette peur de l'avion. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette peur? Est-ce que c'est dans la tête? La parole donc à Shirley Coleman, qui est psychothérapeute spécialiste en thérapie cognitive et comportementale et qui donne une partie du cours.
Alors la peur de l'avion, c'est ce qu'on appelle l'aérodromophobie, c'est une phobie extrêmement développée, hein, qui peut être déclenchée par de multiples facteurs. Globalement, c'est quelque chose qu'on retrouve chez 30% de la population, ce qui est une proportion considérable. 14% de la population ne prend jamais l'avion, 6% se restreignent au maximum et 10% le prennent, mais en ayant une très grande peur et en broyant les accoudoirs très très souvent. Donc c'est quand même une peur particulièrement représentée au niveau de la population.
Est-ce qu'il y a des personnalités qui seraient plus enclins à avoir peur dans l'avion que d'autres?
Alors, comme je disais, hein, ces personnes qui sont déjà à la base hypersensibles, hyperperceptives, qui ont peut-être une focalisation un petit peu forte sur différentes sensations, qui ont la crainte, des fois on n'est pas totalement connecté à son corps, hein, on vit un peu des personnes très cérébrales qui ont tendance à beaucoup intellectualiser. Et puis là, on sait que dans cette phobie de l'avion, il y a une surreprésentation de gens qui ont besoin de garder le contrôle, hein, qui ont peur d'avoir peur, donc cette sensation de perte de contrôle ou de confier sa vie à quelqu'un autre que soi-même, ça devient juste insupportable.
Alors dans les grandes lignes, comment ça se manifeste la peur de l'avion?
Bon, mais ça va être avant tout une sensation au niveau du corps, hein, où on a cette impression de manquer d'air, des fois les palpitations, l'emballement du rythme cardiaque, la gorge sèche, l'impression des jambes qui tremblent, qui n'arrivent plus à nous tenir. Et puis très très souvent, il y a des pensées extrêmement anxiogènes qui peuvent survenir, comme je vais mourir, je vais pas tenir le coup, je vais devenir fou, il faut absolument que je sorte parce que sinon je vais étouffer, je vais faire un infarctus parce que je sens mon cœur qui s'emballe. Et ces pensées anxiogènes, forcément, vont encore accentuer ces sensations. ses émotions jusqu'au moment où, pas sur le plan de l'action, du comportement, bah, la personne va de plus en plus éviter ces situations qui provoquent un tel état de panique.
Et raison de plus pour essayer d'en guérir. Mais comment s'y prend-on dans ces cours, Lydia ?
Bah, tout d'abord, on essaie de détecter les différentes pensées négatives et sensations dans le corps. Donc, je vous propose un extrait de ce stage prêt à décoller au centre CTPA à la Blécherette à Lausanne. Et c'est Shirley Coleman qui mène le bal.
L'anxiété, les réactions de panique vont être des réactions automatiques. Et plus je vais accepter ces émotions, ces pensées qui viennent, plus je vais arriver à me relaxer. L'idée de ce travail avec la thérapie cognitive, donc la thérapie au niveau des pensées, c'est qu'on va travailler un peu à assouplir ces pensées dysfonctionnelles. C'est pas « je suis folle de penser ça », c'est « tiens, qu'est-ce que je pourrais penser d'autre ?» Donc typiquement, vous êtes dans l'avion et puis l'avion commence à bouger un petit peu beaucoup trop. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous allez vous dire ? C'est quoi la première pensée qui surgit ? L'avion va décrocher. Et vous, Catherine, qu'est-ce que vous vous dites ?
On va perdre le contrôle.
On va perdre le contrôle. On va tous se cracher.
Et puis, ma peur, c'est juste d'avoir une crise de panique dedans, dans l'avion.
Donc, vous allez vous crisper, broyer les fameux accoudoirs, peut-être broyer la main de la voisine ou du voisin. Parfois, on a tendance à se figer, être complètement tétanisé. Vous voyez qu'il y a quand même une logique entre les pensées qui se déclenchent, ces sensations. Alors, on ne sait pas qui de l'œuf ou de la poule, mais des fois, c'est des sensations qui vont déclencher des pensées. Des fois, c'est des pensées qui déclenchent les sensations. Et puis, il y a un lien direct avec mon comportement, mes actions.
Donc, quel remède à cette peur ? Qu'est-ce qu'on peut enseigner dans ce cours que les gens puissent ensuite pratiquer et prendre avec eux, Shirley Coleman ?
Alors, déjà, c'est l'importance de comprendre, comprendre qu'on est loin d'être seul. Comme je vous disais, ça concerne quasiment 30% de la population, ce qui est une proportion relativement importante. Donc, comprendre les mécanismes biologiques, physiologiques qui sous-tendent ce phénomène, se dire que je suis pas fou, que je suis pas seul au monde, isolé dans cette peur, parce que la plupart des gens n'osent pas en parler, ils ont honte. Il y a un phénomène de généralisation où, ils se disent qu'ils doivent être capables de gérer. Donc, c'est déjà prendre acte et comprendre les mécanismes physiologiques et biologiques qui sous-tendent cette hyper-réactivité. Et puis après, inclure des outils qu'on trouve dans les méthodes et dans les approches cognitivo-comportementales. Donc, travailler typiquement sur les pensées irrationnelles qui peuvent augmenter ma peur et cette réactivité sensorielle. Ça peut être après tout ce qu'on va travailler comme outil, au travers notamment de la respiration. Ça peut être la méditation avec les stages de mindfulness dont on entend de plus en plus parler. Ça va être des exercices de relaxation pour prendre conscience des tensions qu'on a souvent ancrées au niveau du corps et dont on n'a pas toujours conscience. Et puis ça va être beaucoup de travail de cohérence cardiaque qui permet vraiment quelque part de réconcilier le cœur et le cerveau et de prendre conscience qu'on est capable de gérer et d'accueillir autrement ces sensations.
Accueillir autrement ses sensations. Mais qu'est-ce que la cohérence cardiaque, Lydia ?
Alors, c'est un exercice de respiration qui consiste à utiliser le même temps pour l'expiration et pour l'inspiration. Exemple, 4 temps pour inspirer et 4 temps pour expirer.
4.
Le même, Et peu à peu, cela calme le cœur et apaise l'esprit. Et dans le stage, tout est mesuré avec des programmes informatiques. Et en effet, on voit que le pouls devient plus lent et que l'activité cérébrale est plus apaisée. Témoignage.
Il faut respirer profondément par le ventre et expirer profondément par le ventre pendant 5 minutes pour essayer de régler le cœur et le rythme cardiaque.
Et puis l'inspiration doit durer le même temps que l'expiration.
C'est ça, il y a un curseur qui nous montre quand il faut inspirer et quand il faut expirer.
Et c'était quoi l'effet sur vous ? Parce que nous, on a vu que ça bougeait sur le tableau, que votre respiration devenait plus régulière, mais vous le ressentiez comment ?
On sent quand même un effet de relaxation. On sent qu'on a les muscles du ventre qui se détendent. On a un peu la tête qui tourne, un sentiment de corps qui s'aère un peu.
Vous imaginez faire ça, par exemple, avant de monter dans l'avion ou dans l'avion ?
Je pense que c'est un exercice qu'il faut faire avant pour s'entraîner, parce que c'est pas évident, on n'a pas l'habitude de respirer aussi profondément, donc j'imagine que je le ferai 24 heures avant pour m'entraîner. Enfin, je pense déjà que je m'entraînerai régulièrement et puis je le ferai 24 heures avant le vol. J'imagine mal le faire au moment où j'ai un gros stress, donc je pense que c'est quelque chose qui s'entraîne.
Voilà. Et puis au moment du stress, vous espérez y penser?
Bah, j'espère que je serai suffisamment calme pour pas arriver au moment du stress, justement. C'est un effet préventif, j'espère.
Donc on travaille finalement beaucoup sur sa respiration.
Oui, et surtout la respiration du ventre, ouais, pour faire descendre la tension dans le bas du corps et calmer l'agitation dans la tête. Mais évidemment, pour que cela soit efficace au moment voulu, il faut s'entraîner avant, comme on l'a compris, et Shirley Coleman, la psychothérapeute qui donnait le cours, le confirme.
La première chose, c'est comme souvent je dis, c'est pas au moment où je signe mon contrat en Chine que je vais apprendre à parler le chinois. C'est déjà dans des situations du quotidien où je vais apprendre à implanter d'autres réactions que cette réaction d'hyperstress. Ça veut dire que je vais travailler ces modes de respiration un petit peu différents. Très souvent, comme je disais, on est en respiration haute, en respiration anxiogène. Donc ça va être dans le quotidien de pouvoir travailler des respirations abdominales. Ça peut être travailler sur mes pensées. Très souvent, les gens qui sont sensibles se font des grands scénarios. Il y a des anticipations anxieuses importantes. Donc ces scénarios, ils sont valables pour Hollywood, mais je peux peut-être construire de nouveaux scénarios avec des films beaucoup plus agréables et beaucoup plus beaux au quotidien.
Mais donc, c'est du boulot.
Alors, c'est une application personnelle. Effectivement, comme dans tout travail thérapeutique, c'est pas je viens et vous réglez mon problème, c'est on va régler ça ensemble, on va travailler ensemble de manière à pouvoir vous outiller différemment. Mais le premier outil, c'est votre motivation, c'est votre envie, c'est votre capacité à vous refaire confiance pour vivre et élargir vos horizons.
On parle de la peur de l'avion ce matin avec Lydia Gabor. Alors pour le moment, c'est bien beau, Lydia, on a vu la théorie, mais on n'est toujours pas en situation réelle, en situation de vol.
Mais alors détrompez-vous, car à présent, on va passer aux exercices pratiques. La deuxième partie du cours donc propose d'éprouver l'expérience du pilotage dans un cockpit grâce à un simulateur de vol créé par Jacques Meyer, qui est ingénieur aéronautique.
C'est un simulateur de 737-700. C'est un avion qui transporte entre 100 passagers, suivant les catégories, et 230 passagers, mm-hmm, et qui coûte entre 70 millions et 110 millions de francs.
D'accord.
Voilà. Et le rayon d'action de cet avion est environ 6000 km pour les normaux, 5 à 6000, et même 10 000 km pour certains, ce qu'on appelle les BBG.
Pourquoi vous faites cet exercice avec les gens qui ont peur en avion, normalement ?
Ça, c'était mon idée, parce que la plupart des gens qui font les cours de la peur en avion, lorsqu'ils remontent dans un avion, ils ne sont pas soignés. On les remet exactement dans le même contexte. Tandis que là, les gens vont apprendre qu'est-ce qui se passe dans ce cockpit, qu'est-ce que je fais pour que ça vole. Donc, qu'est-ce que les pilotes font quand la porte est fermée ? Alors que là, ils auront piloté. Ils vont savoir que tel bruit, c'est ça. Ça, c'est ça, tout. Et pour conclure, ce sont des apprentis pilotes. Et lorsqu'ils prendront l'avion, ils vont savoir qu'à tel moment, les deux personnes qui sont à l'avant dans le cockpit fermé sont en train de faire telle chose. Donc, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Donc, je sais ce qui se passe dans un avion.
Vous pensez que quand on connaît, quand on comprend comment fonctionne un avion, ça peut diminuer la peur ?
Absolument.
Ah, c'est pas bête, hein, ça démystifie finalement.
Oui.
Vous y étiez, Lydia ?
Mais oui.
Ça a l'air vrai, ça fonctionne ?
Écoutez, ça a l'air pas mal vrai. Je pense que peut-être parce que vraiment, on voit le tarmac. Enfin, c'est vraiment une mise en situation presque plus forte que dans les jeux, parce qu'il y a des jeux aussi. Non, c'est vraiment très bien fait. On sent le poids de l'avion, on sent qu'on peut le bouger. C'est très intéressant. Peut-être qu'on n'a pas le risque de mouvement, vous voyez, qui peut arriver parfois quand il y a des turbulences. Mais je voulais découvrir les réactions de notre élève témoin et qu'est-ce que cette expérience lui a apporté.
Je suis assez sceptique, je dois dire, mais on va voir.
D'accord, et là vous allez prendre des commandes.
Voilà. De ce que j'ai compris, oui.
On va voir alors.
Grande différence, on va prendre les commandes. Voilà, alors, vous avez vu, il y a des rails, des glissières, donc vous déplacez votre poids sur la gauche, vous approchez de moi. Voilà, vous êtes à la place du copilote. on va enclencher les pompes électriques basse pression, on va enclencher les tubes pitot, le chauffage des tubes pitot, et puis j'enclenche un autre bouton qui est le yodampeur. Alors, yodampeur, c'est un bien grand mot, bien barbare, c'est simplement la direction assistée de la machine pour nous aider à tourner les commandes. Voilà, et vous regardez la pression montée à 17%, vous levez. On a les deux moteurs enclenchés, ce sont les moteurs qui maintenant vont fournir l'électricité.
Ça veut dire que les pilotes, ils doivent toujours s'assurer de rester droit comme ça. Le pilote automatique, il ne le fait pas.
Moi, je veux que vous compreniez comment la machine fonctionne, d'accord?
Justement, si on comprend comment la machine fonctionne, on a moins peur.
Mais oui, c'est l'idée que connaître une expérience et pouvoir agir soi-même à l'intérieur de cette expérience, ça diminue sa force d'angoisse. On comprend comment ça fonctionne en avion et quelle marge d'action on a quand on a l'impression aussi un peu de contrôler. Et comme notre apprenti témoin, ça a fait une expérience malgré tout différente de sa peur habituelle.
J'ai cru que j'allais ressentir plus d'émotions réelles comme ce que je ressens quand je suis dans un vol, mais en fait on est assez conscient d'être dans un simulateur, donc on n'est pas forcément très stressé. Je me demande maintenant comment ça va s'appliquer à la réalité. Ce qui est rassurant, c'est qu'on se rend compte quand même que qu'un avion c'est malléable, et puis finalement c'est comme n'importe quel moyen de transport. En fait, on peut freiner, on peut atterrir s'il y a un problème. Ça, c'est le côté plutôt rassurant d'un simulateur.
Donc finalement, de voir comment ça fonctionne, c'est bénéfique par rapport à la peur.
Oui, c'est bénéfique parce que justement, on se rend compte que voilà, ça démystifie en fait un avion. On a l'impression que c'est un énorme tas de fer qui vole. Et puis on se dit, bon, finalement, c'est quand même assez maîtrisable. Et aussi, on se dit que avec le pilote automatique, il y a très peu de marge d'erreur. Hein. On s'en rend compte assez vite parce que tout est ultra précis. Donc la marge d'erreur, elle est très très limitée.
Ok, mais quelle proportion de gens guérissent leur peur de l'avion sur le long terme, Shirley Coleman?
Alors, en tout cas, au niveau des stages du CTPA, on a observé que la peur en avion était de 9,2 sur 10 avant le stage. Et puis après le stage, on observe que les gens disent qu'ils ont une peur à 3,7, ce qui veut dire qu'on a diminué de 2/3, hein, la peur. Et une peur à 3,7, ben, on est capable de l'affronter, de pouvoir imaginer reprendre l'avion. On a beaucoup de gens qui n'avaient jamais pris de l'avion de leur vie, qui venaient vraiment à reculons au stage et puis qui finalement ont pu le reprendre. Et ils ont réservé même le vol EasyJet juste après le stage, le soir même, tellement ils avaient envie de découvrir cette nouvelle expérience. Donc ce n'est qu'en s'exposant, mais en s'exposant progressivement, graduellement, qu'on va pouvoir faire face et retrouver confiance. Pas en se contractant, pas en étant dans la tétanie, dans le figement, en subissant, mais en étant pleinement actif et en reprenant le cockpit de ma vie et de mes sensations.
Bon, en tout cas, celles pour qui le stage marche, ce sont les compagnies aériennes, ça c'est sûr. Mais bon, trêve d'ironie. Lydia Gabor, prendre sa peur de l'avion en main, penser autrement, maîtriser ses émotions, ça ne se réalise pas en un jour non plus.
Mais non, un stage de ce type quand même permet d'avancer, et s'il ne fallait retenir qu'une seule idée, notre témoin.
De manière générale, je pense que ce que je retiens de ce cours aujourd'hui, c'est surtout que les effets physiologiques, biologiques qu'on a entraînent ensuite les pensées négatives et le stress. Le physique fait beaucoup parce que à l'idée de pouvoir contrôler ses pensées, on se dit que c'est pas possible. Par contre, on imagine assez aisément de pouvoir contrôler les effets physiques comme la respiration ou les palpitations, ce qui génère ensuite le stress et les pensées négatives. C'est quelque chose qu'on nous dit assez souvent, hein, on le fait avec la méditation, le yoga, etc. Et je pense qu'on a tendance un peu à le sous-estimer, mais c'est vrai qu'avec la respiration, je pense qu'on arrive à contrôler beaucoup de choses, oui.
Est-ce qu'il est conseillé de reprendre l'avion rapidement après ce cours?
Mais alors, il faut se remettre en selle, mais tout de suite, pour tester les nouvelles compétences que l'on a acquises et s'entraîner sur le terrain de l'expérience. Jacques Meyer, donc notre ingénieur aéronautique.
On leur dit, vous faites des petits vols, parce que souvent ils doivent aller aux États-Unis ou loin en vacances. Et on leur dit, faites des petits vols, allez à Nice, revenez, allez à Paris, revenez, dans une journée. Faites ça. Alors ils le font. Ils le font, et puis après le grand vol, ben là, c'est là qu'on reçoit la carte postale pour nous dire « Mais qu'est-ce que j'ai été idiot pendant des années de polluer ma famille, de leur interdire d'aller loin, tout ça. » Mais je suis heureux, quoi, heureux. Et pour nous, alors ça, c'est la satisfaction suprême. Si je fais ça, à mon âge, je ne suis pas tout jeune, si je fais ça, c'est parce que ça me fait plaisir.
Prêt à décoller, donc c'est le nom de ce stage proposé par le Centre du traitement de peur en avion, de la peur en avion, le CTPA à Lausanne, à l'aéroport de la Blecherette. Est-ce qu'il y a d'autres stages de ce type et quelles sont les modalités liées?
Mais oui, donc il y a ce stage prêt à décoller qui propose une journée, mais alors vraiment une longue journée de stage, et coûte 590 francs donc pour les cours et le simulateur de vol. Et puis à Genève et à Bâle, on propose un stage voler sans peur sur 2 ou 3 jours, avec un vol de 30 minutes Genève-Zurich inclus pour environ 950 francs. Et donc, c'est ces deux grandes possibilités que l'on a en Suisse romande et en Suisse en général. Et
d'ailleurs, à propos de ce stage suivi à Genève, Marine nous écrit un mail qui nous dit, elle nous dit qu'en fait, elle a suivi ce stage, mais elle continue d'avoir peur en avion. Elle se demandait justement si le simulateur qu'on a découvert avec votre dossier était plus efficace.
C'est en tout cas ce que prétend Jacques Meyer. Parce qu'on est en situation de piloter soi-même. Donc on fait un pas de plus que simplement prendre l'avion.
Voilà, donc c'est à essayer. Et vous n'avez plus peur en avion?
Mais non, pour une fois, j'ai traité une problématique dont je ne souffre pas.
D'accord.
J'ai aucune peur en avion. Je me sens comme dans un cocon. Je regarde des films. Je raconte ma vie autour de moi avec les passagers. Donc pour moi, c'est un temps suspendu, offert, qui n'est pas soumis à la rentabilité. Donc je jubile.
Eh bien, on peut voir les choses comme ça. Merci beaucoup Lydia Gabor. Vous pouvez détacher votre ceinture. Nous sommes arrivés.